Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une page assez sombre de l'histoire de l'exploration spatiale en vous parlant des accidents qui se sont passés dans l'espace. Et on va commencer avec l'histoire de la navette Challenger. La navette Challenger, c'est l'une des navettes spatiales les plus célèbres de la NASA. Malheureusement, elle est surtout connue pour la tragédie qui a marqué son vol final. Le programme des navettes spatiales de la NASA a été lancé dans les années 1970 avec l'objectif de développer un vaisseau spatial réutilisable qui pourrait effectuer des missions fréquentes dans l'espace. La navette spatiale a été conçue pour transporter des astronautes et du matériel en orbite terrestre basse, effectuer des réparations, lancer des satellites, conduire des expériences scientifiques. Avec une grande différence avec les fusées, c'est que les navettes sont des vaisseaux conçus pour offrir une réutilisation partielle ou totale, permettant de réduire les coûts de lancement. Car en effet, une fusée, quand elle lance des satellites ou quand elle emmène des astronautes dans la Station Spatiale Internationale, par exemple, est complètement détruite après le lancement. Ce système de navette doit également permettre un retour sur Terre des satellites ou des modules de station spatiale dans le but d'une remise en état. En pratique, aucune navette spatiale n'est entièrement réutilisable, étant donné qu'elles étaient toutes lancées par des fusées conventionnelles, bien que la réutilisation totale ait quand même été envisagée au début. La navette Challenger, désignée officiellement OV-099, a été initialement construite en tant que modèle de test structurel pour la flotte des navettes spatiales. Après la réussite des premiers vols de la navette Columbia, la NASA a décidé de convertir Challenger en une navette opérationnelle. Challenger a été livré au Kennedy Space Center en juillet 1982. Le premier vol de Challenger, STS-6, a lieu le 4 avril 1983. Cette mission a marqué la première sortie dans l'espace du programme de navette spatiale et la mise en orbite du satellite TDRS-1. La mission a été un succès, démontrant les capacités de Challenger et contribuant à l'expansion du programme de la navette. Au cours de sa carrière, Challenger a effectué 9 missions réussies. Parmi les plus notables, celle du 18 juin 1983, qui a transporté la première femme américaine dans l'espace, Sally Ride. Le 30 août 1983, la première mission de nuit du programme de navette spatiale, transportant également Guion Bulford, le premier afro-américain dans l'espace. Le 3 février 1984, première utilisation du propulseur de manœuvre Manned Maneuvering lors d'une sortie dans l'espace. Et le 6 avril 1984, une mission de réparation du satellite SolarMax, qui était en orbite. Mais concentrons-nous sur la mission 51. La mission STS-51 de Challenger était prévue pour être une mission historique. Prévue le 8 janvier 1986, elle devait être la première mission du programme Teacher in Space, transportant l'enseignante Christa McAuliffe, sélectionnée parmi des milliers de candidats pour devenir la première enseignante à voler dans l'espace. La mission comprenait également des expériences scientifiques et le déploiement d'un satellite de communication. Le 8 janvier 1986, à 11h38, Challenger a été lancé depuis le Kennedy Space Center en Floride. Le lancement avait été retardé plusieurs fois en raison de problèmes techniques et de mauvaises conditions météo. Le matin du lancement, la température était exceptionnellement basse pour la Floride. À T plus 58, c'est-à-dire 58 secondes après le décollage, une caméra de contrôle a enregistré un échappement de fumée. Mais ce fut ignoré par l'équipage de Challenger et les techniciens à Houston. Du gaz brûlant a alors commencé à fuir par une ouverture d'un joint qui continuait encore à s'agrandir. Rapidement, le panache de fumée est devenu considérable. La pression interne du réservoir droit a commencé à baisser suite à l'élargissement de l'ouverture. Et à T plus 60 secondes, il y avait des preuves visuelles de flammes au travers du joint. À T plus 64 secondes, le panache de fumée a subitement changé de forme, signe d'une fuite de dihydrogène liquide dans la partie arrière du réservoir externe. À ce stade, la situation apparaissait toujours normale à la fois pour les astronautes et pour les contrôleurs du vol. À T plus 68 secondes, le capsule communicateur, le CAPCOM, chargé de la communication avec l'équipage, informa celui-ci qu'ils allaient plein gaz. Et le commandant Six Coby a confirmé le message par « compris, plein gaz ». Ce fut le dernier message émis par Challenger. À T plus 72, le propulseur d'appoint de poudre droit s'est semble-t-il détaché du pylône de liaison au réservoir principal. La navette a commencé alors à dévier vers la droite. La dernière déclaration de l'équipage enregistrée à bord fut juste une demi-seconde après cette accélération, lorsque le pilote Michael Smith a dit « Oh oh !». À T plus 73 secondes, le dôme arrière du réservoir d'hydrogène s'est détaché et a été propulsé vers l'avant du réservoir d'oxygène. Au même moment, le propulseur d'appoint de poudre droit a pivoté autour du pylône et a percuté la structure inter-réservoir. La destruction de la fusée a commencé à T plus 73 secondes, à une altitude de 14,6 km. Le réservoir externe s'est désintégré. Challenger a viré depuis son altitude correcte et a été immédiatement désintégré, entraînant la mort des 7 membres de l'équipage. Après enquête, il est établi que l'accident a été provoqué par la rupture de l'un des joints toriques de l'un des deux propulseurs de poudre accolés au réservoir principal d'hydrogène. Ce joint avait souffert des conditions climatiques particulièrement froides au cours de la nuit précédant le tir. Les joints en question, développés par la compagnie américaine Morton Thiokol, située au nord des États-Unis, n'avaient pas été testés dans des conditions de grand froid. Les concepteurs considéraient que le lieu de tir, la Floride, bénéficiait d'un climat toujours ensoleillé. Les ingénieurs de Morton Thiokol avaient néanmoins de sérieux doutes sur la capacité de résistance du joint au froid, à cause notamment d'incidents remarqués au cours de certains vols précédents. Certains d'entre eux, notamment Roger Boisjoli, avaient lancé l'alerte. Mais le joint n'ayant pas été formellement testé, puisque la question du froid ne s'était même pas posée, ils furent incapables de prouver la faiblesse de cette pièce au directeur de tir. Leurs remarques furent donc rejetées par les responsables de Thiokol, qui recommandèrent que le lancement soit exécuté comme prévu. Il faut comprendre que pour des raisons financières, les propulseurs d'appoint n'étaient pas construits en une seule pièce. Chacun était composé de plusieurs sections reliées par deux joints toriques qui permettaient de sceller hermétiquement l'ensemble. Une enquête menée par la suite démontra que ces joints étaient beaucoup moins élastiques lorsqu'ils étaient confrontés au froid. Une fois compressés, ils ne retrouvaient pas leur forme. En d'autres mots, le matériau perdait son élasticité à une température de 0 degré. Cependant, une interrogation persiste après les conclusions de la commission. Si le joint a été détruit et qu'une fuite s'est révélée dès le lancement, pourquoi la navette n'a pas été détruite à ce moment-là? Certains experts émettent l'hypothèse que la poudre d'aluminium ajoutée au carburant des propulseurs pour accroître la poussée aurait pu colmater la fuite. Mais avant le vol, un avion passant juste au-dessus de la fusée déclara qu'il y avait de fortes turbulences. Lorsque la fusée traversa cette zone, le reste de poudre se désintégrèrent et de nouvelles flammes sortirent. Challenger ne fut pas détruite par une explosion. Après la désintégration due aux forces aérodynamiques, le combustible qui se trouvait dans l'orbiteur et le réservoir principal brûla encore quelques secondes, formant ainsi une boule de feu massive. L'habitacle, toujours largement intact, retomba vers l'océan. Il a été prouvé que les astronautes ont survécu au choc initial, une des bouteilles d'oxygène ayant été utilisée. Mais nous ignorons si les astronautes sont décédés lors de la chute qui a duré 2 minutes ou à l'impact dans l'eau. La tragédie de Challenger a eu un impact profond sur le programme spatial américain. Les vols de la navette ont été suspendus pendant près de 3 ans, alors que la NASA procédait à une refonte majeure de ses procédures de sécurité et de gestion. La perte de l'équipage de Challenger a profondément marqué la nation. Des mémoriaux ont été érigés en leur honneur, des écoles, des bourses d'études, des programmes éducatifs ont été nommés en leur mémoire. Le Centre spatial des visiteurs Kennedy Space Center a dédié un mémorial aux astronautes tombés. La navette spatiale a repris ses vols avec la mission STS-26 en septembre 1988, marquant le retour en vol de la flotte avec la navette Discovery. Cette mission a été un succès et a démontré que les améliorations apportées à la navette et aux procédures de sécurité avaient porté leurs fruits. Malheureusement, l'histoire des navettes spatiales devait à nouveau être marquée. Cette fois-ci, c'est Columbia qui est concernée. Elle est la première navette spatiale de la NASA à voler dans l'espace. Elle a effectué son premier vol en avril 1981. Elle était connue pour être l'orbiteur le plus lourd de la flotte, en raison de sa structure plus robuste. Avant la mission STS-107, Columbia avait accompli 27 missions avec succès. La mission STS-107 était une mission scientifique, dédiée à des expériences en microgravité. Prévue pour durer 16 jours, la mission a été lancée le 16 janvier 2003. Le lancement de Columbia s'est déroulé sans incident majeur. Cependant, 82 secondes après le décollage, un morceau de mousse isolante de 800 grammes s'est détaché du réservoir externe et a frappé l'aile gauche de la navette. Cet impact a endommagé le système de protection thermique, composé de tuiles de protection thermique critiques pour la rentrée atmosphérique. Malgré l'incident au lancement, la mission s'est déroulée comme prévu, l'équipage menant diverses expériences scientifiques. Le problème causé par l'impact de la mousse n'a pas été immédiatement compris, bien que certaines images de l'incident aient été examinées depuis le sol. Les ingénieurs de la NASA ont discuté de l'impact, mais la gravité de la situation n'a pas été pleinement réalisée. Lorsque Columbia était encore en orbite, certains ingénieurs ont soupçonné des dommages, mais les directeurs de la NASA ont limité les investigations, au motif que même si les problèmes étaient découverts, rien ne pourrait être fait pour y remédier. Le 1er février 2003, lors de la rentrée atmosphérique, les capteurs de température sur l'aile gauche de Columbia ont commencé à enregistrer des températures anormalement élevées. Quelques minutes plus tard, les capteurs de pression ont également montré des lectures anormales. À 8h59, la communication avec la navette a été perdue. À environ 60 km d'altitude, à une vitesse de Mach 18, la navette a commencé à se désintégrer au-dessus du Texas. Les dommages causés par l'impact de la mousse avaient permis à l'air chaud de pénétrer dans l'aile gauche, détruisant progressivement la structure interne. Mais le centre de contrôle va mettre quelques minutes à vraiment réaliser ce qui s'est passé. En effet, au moment où des vidéos amateurs filment la désintégration de la navette, les communications sont coupées avec la navette afin que les antennes du centre JFK sur Terre prennent le relais de communication. Le responsable des communications, le Capcom, essaye de contacter la navette et de passer sur leur système de communication de secours, sans succès. Moins de 15 minutes après l'explosion, une personne du centre de contrôle des missions informe oralement le directeur du vol que CNN est en train de diffuser des images montrant la désintégration de Columbia, au-dessus de Dallas. À 14h, le même jour, le président des États-Unis, George W. Bush, adresse un message au pays. Je cite « Ce jour nous a apporté de terribles nouvelles et une grande tristesse pour notre nation. À 9h ce matin, le centre de contrôle de mission a perdu le contact avec la navette spatiale Columbia. » Peu après, des débris ont été vus tombant du ciel au-dessus du Texas. La navette Columbia est perdue. Il n'y a aucun survivant. Les débris de la navette et des restes humains appartenant aux astronautes ont été trouvés autour de Norwood, dans le Texas. Comme après l'accident de Challenger en 86, la NASA a suspendu tous les vols de navettes après la perte de Columbia. Cette suspension a duré plus de 2 ans, le temps de mettre en œuvre des recommandations et d'apporter des améliorations à la sécurité des missions. Les futures missions de navette ont inclus des procédures d'inspection en vol pour détecter tout dommage sur la coque de la navette, en utilisant des caméras et des bras robotiques. La NASA a entrepris des réformes organisationnelles pour améliorer la culture de la sécurité et la prise de décision. Un effort concerté a été fait pour encourager une communication ouverte et transparente sur les risques potentiels et pour assurer une meilleure prise en compte des préoccupations des ingénieurs. La navette spatiale a repris ses vols avec la mission STS-114 en juillet 2005, marquant le retour en vol de la flotte avec la navette Discovery. Cette mission a inclus des inspections détaillées et des tests de nouvelles procédures de sécurité. Chaque tragédie a conduit à des améliorations significatives dans la conception des véhicules spatiaux, des procédures de sécurité et la gestion des missions. Les agences spatiales continuent d'apprendre de ces événements pour minimiser les risques et garantir la sécurité des équipages.